Ce matin, je suis heureux de partager avec vous ce que Dieu a mis sur mon cœur. Je suis d'origine new-yorkaise, donc vous entendez... Ah, je savais qu'il avait un petit accent, vous avez entendu? Oui, j'ai entendu. Oui, un petit accent new-yorkais qui est là, vous l'entendez? Je suis né à New York, j'ai fait des études en France après, j'ai la double nationalité américaine et aussi française, je suis naturalisé. Lorsque j'étais à New York, je n'étais pas du tout chrétien, j'étais loin de Dieu, mes actions, mes paroles, mes pensées étaient loin de Dieu. Mais un jour, j'étais parti en Yougoslavie. Et lorsque j'étais en Yougoslavie, d'ailleurs ce pays n'existe pas, ou n'existe plus, je devrais dire. Maintenant, c'est la Serbie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, la Slovénie, Monténégro et le Kosovo et la Macédoine. Hein? Je vous fais un cours d'histoire aussi. C'est en plus, là. Vous voyez, partout où je passe, là, ce pays n'existe plus. Partout où je passe, il y a des tempêtes, neige, il y a des ouragans. Attention ce qui va vous tomber dessus aujourd'hui. Il y a un temps de partir encore, il y a encore le temps. Mais lorsque j'étais allé dans ce pays, j'étais loin de Dieu, mais Dieu est bon. Et il nous cherche. Il cherche l'homme, il cherche l'être humain. Et il est plein de compassion. Et dans ce pays-là, j'ai rencontré un jeune homme qui m'a parlé de Dieu, qui avait été conduit par Dieu de façon extraordinaire. Et il m'a parlé. Et j'ai senti dans mon cœur que ce qu'on me disait, malgré toutes sortes de pensées, je savais que c'était vrai. Et j'ai senti une présence de Dieu. Et ce garçon et moi, on est allés à la mer Adriatique et on est descendu dans l'eau. Il a mis sa main sur ma tête et il m'a plongé dans l'eau au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et j'étais baptisé. Et oui, il n'y avait pas d'église là où on était. Mais vous savez, il faut avancer avec ce que l'on a. Là où on est. Et puis je suis parti en Allemagne, là où je logeais pendant quelques temps. Et j'ai commencé à aller dans la rue et à prêcher dans un allemand, peut-être difficilement comprendre à ce moment-là pour certaines personnes. Mais j'ai commencé à prêcher l'évangile, à partager ce que j'avais dans le cœur. C'est normal lorsqu'on rencontre le Seigneur de vouloir partager ce qu'on a vécu. C'est tellement extraordinaire. Et j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu comme cela. Et ensuite, je suis allé en France, là où j'avais été autrefois pour mes études, à Montpellier. Et j'ai continué à aller dans la rue, des fois avec d'autres jeunes. Quand on commence à faire quelque chose, des fois d'autres se joignent à nous, vous savez. Et j'apportais la parole de Dieu dans la rue, des fois avec la guitare. Et c'était pas toujours facile. Bien des choses sont passées, des choses formidables, des choses merveilleuses et aussi des choses très difficiles, des fois pénibles, des fois on se moquait de nous, des fois on nous persécutait, si je peux dire. Il nous est arrivé qu'on nous lance des bombes lacrymogènes. Vous savez ce que c'est des bombes lacrymogènes? Hein, c'est des petites capsules, on les lance et puis tout d'un coup on ne peut plus respirer, on ne peut plus parler. Alors ça nous coupe net. Et on faisait d'autres choses, il y a des choses difficiles, des fois, mais des fois des conversations extraordinaires avec des gens. Des choses que j'aurais pas voulu rater ça, d'aller devant les gens et de leur parler de ces expériences. Mais des fois des choses vraiment extraordinaires. Je me rappelle une fois à Montpellier, il y a un monsieur, il est venu et c'était un beau français avec un costume magnifique, cravate, un homme d'un certain âge, il faisait vraiment classe et je me disais là vraiment, lui, il me faisait plus peur que d'autres. Vous voyez, vous comprenez ce que je veux dire, hein? Il me faisait plus peur que d'autres. Qu'est-ce que lui va me dire? Il va me chasser, ce sont les autorités. Il est venu, puis il a écouté. Après la guitare, la parole, et puis j'ai vu des larmes qui coulaient. Eh oui, dans les vestes aussi, il y a des larmes. Et après, il m'a parlé, il dit, monsieur, j'étais directeur de cette banque là-bas. Et il m'a montré. Il dit, on avait kidnappé ma femme. On l'avait gardée à la maison et m'a obligé d'aller, d'ouvrir les coffres et donner de l'argent. Et ça a gâché ma carrière, ça a gâché ma vie. Mais ce que vous dites là aujourd'hui, ça me donne de l'espoir. et il a commencé à s'ouvrir à l'évangile. Des choses extraordinaires, des choses que je n'aurais pas pu prévoir. Mais ce n'était pas toujours comme cela. Mais Dieu est à l'œuvre. Il y a un cœur dans chaque poitrine qu'on voit, il y a un cœur qui bat. Et il y a un Dieu qui cherche ce cœur-là. Il ne faut pas jamais sous-estimer ce que Dieu peut faire. Une autre fois, sur la place de la Comédie à Montpellier, ce qu'on appelle Petit Paris d'ailleurs, n'est-ce pas? Montpellier, on appelle Petit Paris. Hein? Vous le savez, ça? Ça vous est égal. J'étais là sur la place avec quelques jeunes, on a joué la guitare et puis je faisais comme je pouvais. Qu'est-ce que je savais faire, moi? Je faisais comme à l'église. Et après, j'ai demandé ça aux gens, si ça les intéresse, ce que l'on dit, lever la main. Donc, sur la place publique, j'ai demandé s'ils voulaient lever la main. Et ce jour-là, il y avait un jeune homme qui a levé la main, m'a raconté par la suite. Il était à la gare, pas loin de la place. Il était en voyage, il allait partir à Marseille. Il allait partir à Marseille pour se suicider, pour mettre fin à ses jours. Il était tellement abattu parce que sa femme l'avait quitté pour une autre femme et il ne voyait plus aucune raison de vivre. Et lorsqu'il était là à la gare en train d'attendre le train, il a eu quelque chose dans son cœur. Une voix qui lui disait d'aller à la place. Il est allé, il a entendu l'évangile et il a donné son cœur à Jésus. Il a changé, il a été baptisé à la Paillade à Montpellier, une nouvelle vie. Et ce que l'on voit, c'est qu'il y avait des choses extraordinaires et il y a des choses merveilleuses qui arrivent quand on fait un pas en avant pour servir Dieu. Ce n'est pas toujours facile, il y a des luttes, il y a des combats, mais c'est une vie merveilleuse de se lancer dans cette aventure qui est le service de Dieu. Ça vous intéresse aussi? Ce n'est pas que tout le monde est appelé à faire exactement comme cela, mais nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Et j'ai vécu comme cela, et c'est vrai que je prêchais dans la rue, quelqu'un va dire, oui, il veut nous montrer ce qu'il a fait. Non, ce n'est pas que je prêchais dans la rue parce que j'étais extraordinaire, je prêchais dans la rue que parce que personne ne me laissait parler dans les églises. le temps a passé et on m'a ouvert la porte. Mais vous savez, il n'y a pas que dans les églises. Il n'y a pas que dans les églises que Dieu nous appelle à servir Dieu. Même, je dirais que la plupart des gens dans le monde ne sont pas dans les églises. Vous êtes bien d'accord? Ils sont où? Ils sont là-bas. Et c'est là aussi que Dieu veut être à l'œuvre. C'est là aussi que Dieu veut manifester des dons spirituels. C'est là aussi que Dieu veut parler aux gens, veut nous conduire. C'est là aussi qu'il y a le service de Dieu. Je veux servir le Seigneur. Voilà le champ. Moisson est blanche et prête. Nous avons un travail à faire. Et Jésus est avec nous. Oui, l'Église, c'est quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est un endroit pour être équipé à faire l'œuvre de Dieu. Plus tard, le temps a passé et Dieu nous a parlé avec ma femme et moi-même et nous a envoyés au loin. Dieu nous a parlé, on est parti dans un pays en Asie du Sud-Est. Ce pays s'appelle le Cambodge, à côté de la Thaïlande, entre la Thaïlande et le Vietnam, au sud du Laos et près du golfe de Thaïlande. Le Cambodge est un pays qui a connu une guerre terrible. 30 années de guerre, les Khmers rouges, des millions qui sont morts. C'est un pays qui a connu des misères et les champs de la mort. On a tué les enseignants, les docteurs, on a essayé de liquider les dirigeants du pays et tous les leaders. Et le pays a été plongé dans la misère, dans la pauvreté, des fois dans la famine. Le Cambodge, c'était le pays où Dieu nous a envoyés. On n'a pas demandé à y aller, c'est Dieu qui nous a envoyés. Et quand on est arrivé là-bas, on ne savait pas parler la langue, c'était pas facile, difficile. Et la première fois que j'étais allé, je me rappelle, j'étais allé dans la capitale de Phnom Penh et près de Psat Mwai, qui est le marché central. Et il y avait encore autour du marché des trous énormes dans les rues à cause des obus de la guerre. Et quand je suis allé, il y avait une foule de personnes grandissantes en me voyant. Ils sont venus et ils ont commencé à tirer mes vêtements. Un groupe de personnes qui mendiaient, beaucoup étaient estropiés, qui avaient toutes sortes de problèmes et des malformations à cause de l'agent orange qui avait été utilisé par la guerre en Asie du Sud-Est. La misère est difficile pour eux, très difficile, et un défi pour moi aussi. Ce n'est pas toujours facile d'aller là devant les difficultés de ce monde, mais Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là où il y a la misère, et il est prêt aussi à agir. J'ai commencé à me promener dans cette ville et à prier et dire, Seigneur, qu'est-ce que je fais là, moi, un garçon de New York? Qu'est-ce que je peux faire, moi, Seigneur? Je n'arrivais même pas à parler la langue à ce moment-là, au début. Et un enfant de 3-4 ans savait mieux faire que moi. Mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et je me rappelle dans certains quartiers, par exemple le quartier de Tonle Basak, à Phnom Penh, je me promenais, il y a des maisons en bois, des pilotis, sur des pilotis, au-dessus des eaux usagées, noires, des maisons après maison après maison, des gens qui n'avaient pas de latrine, des gens qui vivaient dans la misère, qui étaient loin de Dieu. Comment faire, Seigneur? Mais Dieu sait intervenir là où nous ne pouvons plus rien. Il sait agir au-delà de nos capacités et nos forces. Une femme est venue vers moi, elle a commencé à me parler, je comprenais à peine ce qu'elle me disait. Je souriais. Vous savez, quand on apprend une langue, il faut beaucoup sourire. Ah oui, on ne comprend rien du tout, mais ah, c'est formidable. Ah, je ne comprends pas. Chérie, tu as compris ce qu'elle a dit? Non, je ne comprends pas. Elle est venue. Mais c'est au travers d'elle, elle s'appelle Siri, que nous avons commencé à avoir des groupes et des gens qui ont commencé à donner leur cœur au Seigneur. Avec elle et certaines femmes qui sont venues vers nous. Et c'est dans le temps qu'elle m'a raconté encore l'histoire, qu'elle avait raconté plusieurs fois, mais je n'avais jamais vraiment bien compris. Un jour, j'ai compris. C'est que ce qui s'est passé avec Siri, c'est que ce jour-là, elle avait parlé avec ses voisines en me voyant. Elle a dit, venez, venez avec moi, parce que j'ai peur d'aller tout seul. Venez avec moi, parce que je veux parler avec cet homme. Parce que cet homme, c'est l'homme que j'ai vu dans ma rêve. Et dans mon rêve, il venait nous apporter une bonne nouvelle. Ce n'était pas le fruit de notre stratégie ou notre connaissance ou un grand programme ou quelque chose, mais par l'action de Dieu, que l'œuvre de Dieu a commencé. Vous voyez, je crois à l'intervention de Dieu. Je crois que dans la parole de Dieu, nous voyons comment Dieu conduit les hommes et les femmes qui cherchent sa face. Des fois de façon flagrante, des fois parce qu'ils ont fait confiance à Dieu, tout simplement. Et ils ont avancé par la foi. Mais l'œuvre de Dieu a commencé et on a vu aussi une action très forte de Dieu à différents moments. On a vu des fois des guérisons et des miracles. On aurait aimé toujours plus tous les jours, ce n'était pas tous les jours, mais on a vu une action de Dieu. Je me rappelle par exemple une femme, des gens avaient différentes maladies, des fois on ne savait pas ce qu'ils avaient, mais une femme qui était terrassée par la maladie, elle n'avait pas la capacité de se lever, elle ne pouvait plus. Elle était en train de s'affaiblir de plus en plus. Et cette femme avait une corde bouddhique autour de sa taille. Et cette corde la liait au rituel et au rite du temple. Elle aurait eu très peur d'enlever cette corde parce que cette corde représentait son lien avec les esprits. Vous voyez, dans les temples du sud-est asiatique, lorsqu'on va au temple, on fait des offrandes, on a des rituels avec des cordes. On n'est pas en train de s'approcher d'un Dieu d'amour, mais on est en train d'aller au temple, on est en train de faire des sacrifices et des prières afin d'apaiser les esprits pour qu'on ne nous fasse pas de mal. Parce qu'on a peur de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut nous faire. On a la crainte. C'est pour cela qu'on fait ces sacrifices. C'est pour ça qu'on fait tout cela. Alors cette femme avait cette corde, elle espérait que cela éloigne des mauvais esprits d'elle. Mais en entendant parler d'un Dieu d'amour, en entendant parler de Jésus, cette femme a voulu faire un pas de foi. Et elle a décidé elle-même, on ne l'a pas obligée, mais elle a décidé elle-même de donner sa vie au Seigneur de croire à Jésus et de couper la corde. Maintenant, vous mesurez peut-être pas à quel point c'était un pas de foi pour cette dame de couper cette corde. Qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Que vont faire les esprits? Mais cette femme, en coupant cette corde, elle-même, eh bien, dans l'heure qui a suivi, elle s'est levée, elle a retrouvé sa santé, elle a bu, elle a mangé, elle a marché par la grâce de Dieu. Nous voyons que Dieu est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui comme autrefois. Nous avons vu différentes choses, des fois des petites choses, mais des choses importantes. Souvent dans des groupes au Cambodge à ce moment-là, sur un groupe de 3, 4 ou 5 personnes, il y avait toujours une personne qui avait mal au ventre ou mal aux dents. Et ces gens-là expérimentaient aussi la grâce de Dieu. Mais ce que nous avons vu, c'est qu'au fur et à mesure que les mois passaient, des gens qui avaient reçu la grâce de Dieu, où l'évangile est rentré dans leur famille, une nouvelle vie était pour eux. La foi est pénétrée dans leur histoire. Nous avons vu que même s'ils vivaient le miracle, au fur et à mesure que le temps passait, ils tombaient malades encore. Pourquoi ? N'ayant pas accès à de l'eau propre, n'ayant pas accès à une nourriture saine, n'ayant pas de latrine ou certaines connaissances, ne savons pas gagner leur vie à cause du désastre dans lequel leur pays se trouvait. Même lorsque Dieu faisait un miracle, eh bien, dans le temps, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et en voyant cette situation, j'ai commencé à chercher la face de Dieu. Et vraiment, ce n'était pas un travail intellectuel, mais ça m'allait aux tripes, jusqu'au cœur. Et j'ai cherché la face de Dieu et j'ai dit, mais Seigneur, moi, je suis prédicateur, je crois en toi, je suis un prédicateur de la Pentecôte, je crois au miracle de Dieu, je crois que Dieu change les vies. J'ai vu l'alcoolique être délivré, j'ai vu le pécheur venir à la foi, l'aveugle qui voit. Mais Seigneur, voilà ces familles qui se sont données à toi, des individus qui ont donné leur cœur à Jésus, qui t'aiment et qui ont bravé même des fois la colère de leur famille afin de s'attacher à toi. Tu as même fait un miracle dans leur vie. Mais maintenant, les mois passent, ils sont encore malades. Seigneur, y a-t-il pas quelque chose de plus à faire pour ces gens? Est-ce que le salut, c'est que pour après? Après la mort, le ciel, y a-t-il pas quelque chose de plus ici? J'ai cherché la face de Dieu ainsi. Seigneur, y a-t-il pas autre chose? Et dans le temps, en cherchant la face de Dieu, Dieu a commencé à nous aider à comprendre l'évangile d'une façon plus grande encore. Vous savez, je suis un prédicateur de Pentecôte. Vous comprenez cela? Vous le croyez? Je crois au miracle. Vous avez remarqué? Vous voyez, quand je dis de Pentecôte, c'est parce que cette église de Pentecôte, nous faisons référence au début de l'église, le jour où Dieu a versé son Saint-Esprit sur l'église, où les gens ont été remplis de Dieu, ils ont parlé dans de nouvelles langues. Mais non pas seulement cela, ils ont commencé à voir l'action de Dieu. Philippe qui est envoyé, qui se sent guidé, transporté afin d'apporter l'évangile. Des apôtres qui voient des gens au bord de la route et leur disent « Je n'ai ni l'argent ni l'or, mais ce que je te donne, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. » Des apôtres, des hommes de foi, mais aussi de simples gens qui prêchaient l'évangile et qui avaient ce courage et voyaient l'action de Dieu. Je crois à la Pentecôte. Ce n'est pas pour rejeter d'autres chrétiens, mais c'est pour montrer encore notre spécificité, l'importance de l'action de Dieu. Mais vous voyez, ce que j'ai compris, moi, prédicateur de Pentecôte, c'est que le miracle de Dieu, c'est important. Mais Dieu veut aussi voir son peuple agir. C'est pour cela que nous avons commencé, en plus, à penser aux besoins matériels des gens, la vie physique des gens. Et nous n'avons pas simplement commencé à donner aux gens, mais nous avons commencé à travailler de façon à aider les gens à subvenir à leurs propres besoins, à purifier leur propre eau, à changer leur propre maison, à gagner leur propre argent, à avoir la foi d'essayer quelque chose de nouveau et croire que Dieu peut nous aider à changer de vie et trouver des solutions à nos problèmes pratiques. Car nous croyons que Dieu, il ne veut pas simplement s'occuper de notre éternité, mais il veut aussi s'occuper de nous maintenant. Et j'ai pu lire ce passage d'une nouvelle façon, la prière de Jésus, mon Père Céleste. Eh bien, la prière de Jésus au Père Céleste, que ta volonté soit faite sur la terre comme aux cieux. Pas seulement aux cieux, mais aussi sur la terre. J'ai vu que Dieu veut que le royaume de Dieu, les qualités qui sont manifestées dans le sermon sur la montagne, soient manifestées non pas seulement au ciel, mais aussi sur la terre. Au travers de son Église, Dieu veut montrer comment c'est de vivre dans le pardon, dans l'amour, dans l'entraide, dans une nouvelle façon de vivre. Il veut faire pénétrer son ciel et sa gloire et cette éternité, une nouvelle façon de vivre dans notre monde. Et c'est au travers de nous que Dieu veut le faire. Alléluia. J'ai vu que le miracle, ça nous intéresse beaucoup, n'est-ce pas? Nous voulons voir le miracle de Dieu. Mais j'aimerais vous poser cette question. Quand Dieu voit un miracle, est-ce qu'il s'étonne? Dieu n'est pas étonné de voir un miracle. Lorsque Dieu voit un miracle, est-ce qu'il dit, « Ah, regarde, Gabriel, Pierre, regarde, je viens de faire un miracle. Regarde, il marche. » Non, c'est nous qui sommes étonnés. Mais pour Dieu, c'est normal. Mais quand est-ce que Dieu s'étonne? Qu'est-ce qui touche le cœur de Dieu? Ce qui touche le cœur de Dieu, c'est lorsqu'il nous voit, nous, enfants de Dieu, étendre notre main et toucher celui qui en a besoin. Jésus nous a dit d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle. Et nous le faisons. Et il a dit qu'il y aurait des signes et des miracles qui accompagneraient cette parole. Et nous le croyons. Et nous le voyons. Et nous voulons voir de plus en plus. Mais si nous voulons le voir de plus en plus, je pense qu'il y a quelque chose de fondamental que nous devons comprendre. C'est que nous ne devons pas simplement attendre que Dieu étende sa main. Dieu attend aussi que nous apprenions à étendre notre main vers celui qui en a besoin. Parce qu'il y a ce grand commandement d'aller prêcher la bonne nouvelle par tout le monde. Mais il y a aussi Matthieu chapitre 25. Quand j'avais soif, tu m'as donné à boire. Quand j'avais faim, tu as donné à manger. Quand j'étais malade, tu m'as rendu visite. Le peuple de Pentecôte, c'est un peuple formidable que Dieu aime. Et nous avons cette force de croire que Dieu peut intervenir dans des situations extraordinaires et de façon extraordinaire. Mais nous avons besoin, nous qui sommes du plein évangile, nous avons besoin de réaliser que nous avons aussi un travail à faire, un travail pratique, un travail matériel à faire. Vous savez, j'aimerais bien que vous puissiez croire que je suis un prédicateur de la Pentecôte. Vous le croyez? Je suis un prédicateur du plein évangile, vous le croyez? Je vous le demande, non pas par rapport à moi, mais par rapport à ce que je vais vous dire. C'est que je crois au plein évangile. Maintenant, le mot plein évangile même, c'est un petit peu pas tout à fait gentil, vous voyez? Parce que le plein évangile, l'idée c'est que nous avons le plein évangile, mais les autres évangéliques, c'est pas plein. Hein, c'est à mi-plein. Ça veut dire que c'est à demi-vide. Hein, c'est un peu ça que ça veut dire. Moi, j'ai pas ce sentiment envers nos amis baptistes ou d'autres. Mais c'est un petit peu l'origine du terme. Mais nous voulons montrer que nous croyons au miracle de Dieu. Mais moi, je ne crois pas seulement au plein évangile. Je crois au plein évangile, mais je crois au plein évangile. Le plein évangile, c'est que Dieu étend sa main. Mais le plein évangile, c'est que Dieu, il étend sa main. Mais nous aussi, nous sommes appelés à étendre notre main et à toucher ceux qui nous entourent et à avoir un impact autour de nous. Et nous n'avons pas à être peur, à avoir peur. Et ce ne sera pas toujours facile. Et il y aura des fois des difficultés, mais nous allons aussi voir des choses extraordinaires. Je pense à l'histoire de Dorcas, hein, Tabitha, chapitre 9 des Actes des Apôtres. Vous connaissez l'histoire? J'aime beaucoup Tabitha. Peut-être vous vous appelez Tabitha ou Dorcas. Tabitha, c'est une chrétienne. Elle est morte. Mais Pierre est allé prier pour elle. Elle est revenue à la vie. C'est extraordinaire. Mais je pense que Dieu n'était pas étonné quand il a vu qu'elle s'est ressuscitée. Dieu n'était pas étonné. C'est les gens qui étaient étonnés. Mais Dieu regardait autre chose. Dieu avait vu Dorcas qui savait coudre. Et jour après jour, elle faisait des habits. Elle partageait ça avec ses voisins. Elle manifestait un amour pratique et réel, vous voyez. Ce n'était pas que des paroles, elle faisait quelque chose. Elle le faisait de façon continue. Et Dorcas, je ne crois pas qu'elle simplement elle donnait des habits. Je pense qu'elle avait des gens qui venaient chez elle et ils buvaient le thé, je l'imagine, hein? Permettez-moi. Et qu'elle aussi, elle leur a montré comment faire. Il y a sûrement bien des dames là qui ont appris des choses, peut-être qui ont appris un métier. Elle les a bénis. Elle n'a pas attendu un grand programme. Elle a fait parce qu'elle est entrée dans une nouvelle dimension de vie, une dimension d'amour. Montrez-moi votre foi par vos œuvres. Elle a montré à Dieu sa foi par ses œuvres. Elle a vu, les gens de la ville l'ont vu. Et une foule était là. Et on fait venir Pierre parce que c'était tellement une femme précieuse. Et quand Dieu voit Dorcas, il est étonné de voir sa main qui est étendue vers les autres. Et c'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Il veut qu'on soit le sel de la terre. Qu'est-ce que c'est le sel? Ça donne un bon goût, n'est-ce pas? Mais des fois, à l'église, c'est du sel ensemble. Est-ce que ce serait bon de manger un plat de sel? On vous sert à manger là à midi, une entrée, sel. Plat de résistance, une grosse assiette de sel. En dessert, vous devinez? Ah ouais, on va vous servir du sel. Ce serait bon, ce ne sera pas bon. Il faut prendre cette salière qui est l'Église et qu'on mette du sel dans nos communautés. Il faut prendre le service de Dieu et avoir cet accès, non pas seulement sur ici, mais là où nous sommes. C'est là que Dieu veut faire aussi de grandes choses. C'est là qu'il veut nous conduire et nous aider. Vous savez, l'Église, c'est l'endroit où nous devons être équipés. Dans Éphésiens chapitre 4, nous voyons que Dieu a donné des apôtres, des prophètes, et des évangélistes, et des docteurs de la loi. Et qu'est-ce que j'ai oublié encore? Et des pasteurs, ah oui, des pasteurs aussi, alléluia. Et il a donné tout cela pour le perfectionnement, pour équiper le peuple de Dieu. Pour faire quoi? Pour faire le service de Dieu, pour faire l'œuvre de Dieu. Donc ce n'est pas quelques-uns qui font l'œuvre de Dieu, mais c'est le peuple de Dieu dans sa vie de tous les jours, dans son travail, dans son quartier, qui fait l'œuvre de Dieu. C'est ici que nous sommes équipés, parce que nous sommes un sacerdoce royal, nous avons entendu aujourd'hui. Nous n'avons pas quelques prêtres devant et nous assistons tous. Nous sommes un sacerdoce royal tous ensemble. Nous sommes ceux que Dieu veut utiliser dans notre communauté afin de manifester le royaume de Dieu, qui ne subsiste pas en parole seulement, mais aussi en acte. Et Dieu veut être avec nous, là, dans nos communautés. J'aimerais bien vous lancer cette, ce défi. Vous savez, ces derniers jours, nous étions avec les jeunes de Jap et ils sont pas tous si jeunes que ça, des gens de différents âges. Ils se mettaient par groupe, ils réfléchissaient, ils priaient, cherchaient la face de Dieu et ils réfléchissaient. Seigneur, qu'est-ce que nous pouvons faire de pratique, de service pour la communauté, mais même plus des fois avec la communauté, côte à côte, afin de travailler avec eux pour que le monde devienne meilleur, pour que le monde devienne plus semblable au royaume de Dieu. Comment apporter un reflet de ta présence dans notre communauté? Et ils travaillent à cela. Et c'est bien que les chrétiens travaillent ensemble pour voir qu'est-ce qu'on peut faire ensemble dans notre communauté. Mais même là où on est maintenant, là où vous êtes maintenant, dans votre lieu de travail, dans votre maison, j'aimerais bien vous donner ce défi de réfléchir aujourd'hui et de penser à certaines personnes, pas forcément de la famille, et de commencer à prier pour eux jour après jour, à demander à Dieu, « Seigneur, aide-moi à manifester de l'amour pratique à mes voisins, à différentes personnes. Des fois, un amour pratique qui va au-delà de ce qu'on penserait est normal. Oh, on ne fait pas des choses comme ça pour des voisins, ça fait bizarre. Oui, ce n'est pas normal. Oui, faites quelque chose d'anormal pour vos voisins. Alléluia. Faites quelque chose de normal. Mais tu sais pas où j'habite, moi, la voisine, jette la poubelle sur mon balcon, je lui ai dit, elle s'arrête pas. Oui, moi aussi, des fois, des gens m'énervent. Hein, quand vous êtes avec vos valises, là, ils vous laissent pas rentrer dans le métro. Hein, vous êtes planté là. Oui, mais nous avons la possibilité de faire mieux. Nous avons la possibilité, car Dieu est avec nous. Et nous avons un message à apporter. Un amour à partager. Cherchons une façon d'aider de façon pratique qui répond à un besoin réel pour ceux qui nous entourent. Visons plutôt quelque chose qui peut les aider à faire eux-mêmes et à résoudre eux-mêmes. Mais utilisons de notre bien. Il y a l'offrande pour l'Église. Oui, je ne veux pas qu'il y ait une baisse des offrandes, mais je vais avoir des troubles. Mais je vous encourage. Normalement, les missionnaires viennent et disent « Donnez-moi. Hein? » Je viens pour vous dire « Donnez à eux, s'il vous plaît. » Faites quelque chose avec votre bien pour bénir quelqu'un. Et vous allez voir, en le faisant, Dieu peut vous conduire. Il peut vous diriger. Il peut faire le miracle de Dieu. Il peut ouvrir des portes pour que vous puissiez aussi avoir une parole. Mais au début, s'il vous plaît, peut-être qu'il ne faut pas toujours commencer avec la parole. Mais de nos jours, il faut commencer avec quelque chose de pratique, une manifestation de l'amour. Il y aura une occasion pour parler plus tard. Vous savez, dans nos églises pentecôtistes, des fois, nous sommes paralysés parce que certains attendent que Dieu leur dise comment aller, quoi faire, et nous devenons carrément mystiques. Mais j'aimerais vous dire, ce matin, Dieu peut vous conduire de façon extraordinaire. Je l'ai vécu. Je suis un prédicateur pentecôtiste. Mais s'il vous plaît, levez-vous le matin, vous priez et puis avancez par la foi. Et n'attendons pas que Dieu nous dise à chaque pas quoi faire. Faisons le bien tandis qu'il est temps. Utilisez notre argent qui est sale pour faire quelque chose de pur. Amen. Vous savez, c'est sale hein, l'argent. Hein? Ils ont fait des études, hein, beaucoup de microbes. Hein? Alors débarrassez-vous vite. Utilisé pour l'œuvre de Dieu. Et c'est là qu'on va voir l'œuvre de Dieu et des prodiges et des miracles et la direction de Dieu. C'est merveilleux de voir une œuvre autour de nous. N'ayez pas peur non plus de travailler avec d'autres pour faire du bien. Et ils n'ont pas forcément besoin d'être chrétiens. Amenez quelqu'un avec vous qui n'est pas chrétien pour bénir quelqu'un d'autre. Ainsi, vous êtes en train de leur apprendre à aimer leur prochain comme eux-mêmes. Et n'est-ce pas là aussi le début aussi de l'évangile pour certaines personnes? Tout est possible à Dieu. C'est comme cela dans mon ministère que j'ai vu l'œuvre de Dieu grandir de plus en plus. C'est là aussi que je me sens bien. C'est là aussi que je sens que je suis au plein centre de ce que Dieu est en train de faire dans le monde. Je pense à David Wilkerson, un prédicateur à New York, et je suis partenaire avec l'organisation qu'il avait créée, World Challenge, dans certains endroits, qui a enlevé ses chaussures au milieu de New York et les a données à quelqu'un. C'était le commencement d'une œuvre extraordinaire. Maintenant, je ne vous demande pas tous de rentrer pieds nus aujourd'hui. Et vous allez utiliser de la sagesse. Pas besoin de se sentir obligé d'aider le monde entier. Mais faisons quelque chose de pratique et réel. Soyons des pentecôtistes. Soyons des gens du plein évangile. Bien plus, soyons un peuple du plein évangile. Hallelujah.